Chapitre 2. Un souvenir d'amour. Le bon Sanders avait bien entendu parler de ces villages indiens composés de tentes faites de peaux de bison, et il n'ignorait pas tout à fait qu'il existât toujours des peuplades nomades que la civilisation repoussait dans le désert. Mais tout cela, jusqu'alors, l'avait peu intéressé. Et voilà que lui, paisible négociant, homme positif et esprit pratique, il se trouvait transporté au milieu de ce monde bizarre. Aussi, examinait-il avec autant de stupéfaction que de curiosité ces demeures primitives et ces individus étrangement accoutrés qui s'étaient groupés au nombre d'une trentaine au moins en avant des cases pour recevoir les voyageurs. Ceux-ci mirent pied à terre et s'avancèrent vers les Sioux. Butler, qui marchait le premier, s'approcha d'un Indien, le chef. Il lui fit un petit discours qui parut obtenir l'approbation générale. Le Sioux lui répondit par quelques mots prononcés d'une voix gutturale, et le trappeur, en se tournant vers ses compagnons, leur dit « Jimin, l'élan rapide, chef de ce village, donne la bienvenue à ses frères de l'Est, les visages pâles, et il leur offre l'hospitalité sous sa tente. » Puis Butler ajouta, cessant de traduire les paroles du Sioux et n'exprimant plus que sa propre pensée. « J'ai dit à Jimin que vous êtes de riches marchands de fourrures, ayant l'intention de fonder un comptoir à Omaha, et que votre seul but, en venant dans la prairie, est d'établir des rapports directs avec sa peuplade afin de lui acheter les peaux à un prix supérieur à celui qu'en donnent les agents des compagnies. » « C'est très ingénieux, » répondit William Doe. « Bon, me voilà maintenant marchand de fourrures, » murmura Saunders. Quant à Young, son intrépidité s'humiliait de cette nouvelle situation sociale, et sans sortir de son mutisme accoutumé, il protestait en tortillant sa longue moustache d'un geste plus guerrier que jamais. Cependant, la présentation terminée, les excursionnistes se dirigèrent vers la tente du chef à travers la population entière du village, hommes, femmes et enfants, qui se pressaient curieusement autour d'eux. Cette tente de Jimin ressemblait à toutes les autres, sauf qu'elle était un peu plus grande. Faite de peaux de bison grossièrement cousues, elle était divisée en deux parties. L'une occupée par la famille du chef, l'autre destinée aux réceptions officielles lorsque Jimin réunissait ses guerriers en conseil. C'est dans cette seconde partie de la tente que les voyageurs furent introduits. De grosses nattes de paille de maïs en tapissaient le sol. Les parois en étaient ornées d'armes et d'ustensiles de pêche. Il ne s'y trouvait pas d'autres sièges que des caisses et des paquets de peaux si mal préparés qu'elles exhalaient une détestable odeur. Ainsi que ses compagnons, Sanders dut se contenter de ses divans primitifs. Il s'y assit, ou plutôt il s'y laissa tomber. On servit immédiatement du lait et des gâteaux de maïs, puis le chef alluma sa longue pipe, et après avoir fumé silencieusement pendant un grand quart d'heure, il entama avec Butler une conversation que celui-ci traduisait au fur et à mesure. Jimin s'informait des dispositions du gouvernement à l'égard des Indiens, du prix des denrées, et il se plaignait amèrement des agents des grandes compagnies de fourrures qui, en échange du produit de la chasse des Indiens, ne leur livraient que de la poudre éventée, de mauvaises armes, de l'eau-de-vie frelatée et du tabac exécrable. Le trappeur lui affirmait au nom de ses amis que ses justes griefs seraient transmis au président de l'Union, qui ne manquerait pas de faire une enquête et lui conseillait de se rendre lui-même à Washington pour y formuler ses plaintes. « À quoi cela nous servira-t-il ? » reprit Jimin en hochant tristement la tête. « Nos frères, les visages pâles, promettent, mais oublient leur serment. Il y a 4 lunes, je suis allé avec 10 de mes guerriers à Washington. On nous a juré qu'ils seraient faits droit à nos réclamations, et rien n'est changé. Le grand esprit abandonne ses enfants. » « Demandez-lui, » dit à Butler William Doe, qui écoutait attentivement les moindres paroles du chef Sioux, s'il n'est pas revenu émerveillé de la splendeur de nos villes. » Le trappeur traduisit fidèlement cette question. « L'Indien, répondit Jimin, ne voit rien lorsqu'il va dans vos villes. Ses regards, comme son cœur, franchissent l'espace pour retrouver son wigwam et ses prairies. Je ne serais resté à Washington qu'un seul jour si je n'avais dû attendre 2 de mes guerriers qui s'étaient égarés. « Lesquels ? » interrogea Butler à la prière du détective. « Washali et Winka, » fit le chef en désignant de la main 2 Sioux accroupis à sa droite. Un des vôtres, dont la femme avait été ravie, leur a demandé le secours de leurs bras. Ils savaient qu'un Indien, opprimé lui-même, est toujours au service de celui qui souffre. Le visage pâle n'a pas été ingrat, car avec l'or qu'il a donné à Washali et à Winka, ils ont acheté des armes supérieures à celles que les agents nous vendent si chères. Chacun des deux guerriers avait en effet, auprès de lui, une solide carabine à double canon. Au fur et à mesure que le trappeur lui traduisait ces dernières phrases de Jimin, la physionomie de William Doe exprimait une satisfaction de plus en plus vive. « Cher monsieur, dit-il en s'adressant à Saunders, lorsque l'interprète eut terminé, et en désignant les deux Sioux, dont les regards brillaient d'orgueil. « Vous ne reconnaissez pas deux de vos invités ?»«
Hein ? Quoi ?»
répondit le négociant, que la fatigue, la fumée, l'odeur de peau et surtout le peu d'intérêt qu'il portait à la conversation avaient à moitié endormi. « Ces deux Indiens-là, à la droite du chef, » reprit le détective.
« Oui, eh bien ?
Vous ne les reconnaissez pas ? Où diable voulez-vous que j'aie jamais vu ces singes-là ?
Chez vous ?
Chez moi. Ou plutôt chez Miss Ada Ricard ?
Chez Ada.
Voyons, cher monsieur Doe.
Ah !
Le pauvre Saunders, exprimant assez par ce cri qu'il commençait à comprendre, son ami eut pitié de son cerveau déjà si ébranlé et poursuivit.
Oui, chez Miss Ada Ricard, au bal. Ces Indiens sont deux des trois masques qui ont enlevé votre maîtresse.
Mais le troisième ?
C'est son mari.
James Gobson ?
Lui-même, ce n'est pas douteux.
Celui qui l'a enlevé la conduite au colonel Forster, ce peut être son mari, il l'aurait gardé pour lui.
Vous allez trop vite.
Ceci est un autre ordre d'idée, nous y reviendrons plus tard. En attendant, voulez-vous vous assurer du rôle qu'ont joué ces deux hommes dans cette fameuse nuit ?
Je le crois bien, mais hâtons-nous, car je vous jure que je ne suis plus du tout.
Le bonhomme, en effet, prenait sa tête à deux mains et implorait de ses gros yeux hébétés le capitaine Young, qui, fort intéressé par cette scène inattendue, ne quittait pas du regard William Doe.
Vos deux vaillants guerriers, dit celui-ci à Jimin par l'organe de Butler, ont rendu ce jour-là un grand service à l'un de mes amis. Sachant que je venais dans les réserves, il m'a chargé de les remercier une seconde fois. Se souvient-il au moins de ses traits ?
L'Indien n'oublie jamais celui dont il a reçu un bienfait, répondit sentencieusement le chef. Les deux Sioux, en forme d'affirmation, firent résonner leur carabine. Le détective avait tiré de son portefeuille la photographie de James Gobson. Il la remit à Jimin, qui la fit passer à ses guerriers. Ceux-ci s'écrièrent aussitôt.
« Oui, c'est bien le visage pâle que nous avons aidé à reprendre sa femme à un infâme ravisseur. »
À cette épithète, qu'il lui fallait bien accepter pour lui, Saunders eut un air si complètement ahuri que ses deux compagnons et Butler lui-même eurent de la peine à garder leur sérieux. Doe, qui avait remis le portrait du mari de Miss Ada dans sa poche, se leva et, après avoir fait dire à Jimin en son nom et au nom de ses amis qu'il le remerciait de son hospitalité, mais qu'il ne pouvait en user davantage, car il voulait rentrer au Fort Dakota le soir même, il le pria d'accepter comme souvenir un de ses revolvers. Le chef se saisit de l'arme que lui tendait son hôte et, sans dissimuler le plaisir que lui faisait ce cadeau, il le remercia avec une kyrielle de métaphores tout à fait digne de l'Indien des prairies.
« Regardez donc là derrière vous, » dit à ce moment le capitaine Young à William Doe, « au bras de cette jeune fille. »
Il lui montrait une Indienne assez jolie, accroupie, et les deux mains sur les genoux. À son poignet gauche brillait un gros bracelet d'or.
« C'est la femme ou la fille de l'un de vous ?» demanda le détective à Washali et à Winka.
« C'est ma femme, » répondit le dernier de ses Sioux.
« Permets-moi de voir le cercle d'or qu'elle porte au bras. »
Visiblement embarrassé, le guerrier prononça quelques mots, et l'Indienne, levant sur l'étranger ses grands yeux noirs, le laissa lui prendre la main.
« Voyez donc, monsieur Saunders, » fit William en montrant le bracelet au fabricant de biscuits, « si vous ne connaissez pas ce bijou. »
Le gros homme se pencha sur la jeune femme et s'écria
« Mais c'est un des bracelets de Miss Ada.
C'est moi qui le lui ai donné. Je lui en avais offert deux semblables. Il sortait de chez Jeffrey Muller. Nos initiales entrelacées sont gravées en dedans. » Le tendre Yankee était tout ému à la vue de ce gage de son amour à l'infidèle.
« Si cette femme voulait me le vendre ?» hasarda-t-il avec un soupir.
Butler transmit cette proposition à l'Indienne
qui retira aussitôt sa main. « C'est la femme du visage pâle qui m'a donné ce cercle d'or, » dit le Sioux. « Je l'ai donné à Maheni. Il lui appartient. »
« Ou cet homme l'a tout simplement volé à Misada, » répondit Young lorsque le trappeur eut traduit la réponse du guerrier.
« La femme du visage pâle est morte, » dit William Doe, « et il serait bien heureux si nous lui rapportions de la prairie ce souvenir de sa compagne. Je t'en offre 20 livres de poudre, 30 de tabac, 25 bouteilles d'eau-de-vie. Tu viendras avec nous au fort où tout cela te sera remis. De plus, au nom du grand esprit, je m'engage à envoyer à Maheni par Butler, à son premier voyage aux réserves, un bracelet plus lourd encore que celui-ci. »
C'était un marché d'or qu'offrait là le détective au guerrier Sioux. Aussi se hâta-t-il de l'accepter. Sur son ordre, la jeune indienne, les yeux humides de larmes, fit glisser le bijou de son bras de bronze. Sanders s'en saisit, l'ouvrit et montra à Doe, gravé à l'intérieur du joyau, deux initiales amoureusement entrelacées et une date, celle du jour où il avait fait ce cadeau à Misada. Pendant qu'il restait les yeux fixés sur ces initiales et sur cette date, qui lui rappelait des souvenirs si divers, la physionomie du brave négociant exprimait tout à la fois tant de colère et tant d'amour que Young, n'y tenant pas plus longtemps, éclata de rire à la stupéfaction des Indiens. Mais William Doe, lui, pour qui tout était sérieux, conservait sa gravité. Et il dit à Sanders, « Confiez-moi ce bracelet, je vous le rendrai plus tard. » Sans prononcer un seul mot, mais non sans pousser un soupir de regret, le bonhomme remit le bijou au détective, qui donna aussitôt le signal du départ. Il avait été décidé que Washali et Winka accompagneraient les étrangers jusqu'au fort Dakota afin d'y recevoir les objets promis. 5 minutes plus tard, tout le monde était en selle, et les voyageurs, après avoir serré les mains de Jimin et salué le village par une décharge de leur carabine, s'élançaient de nouveau dans la prairie. Montés sur d'excellents petits chevaux, les deux guerriers Sioux les escortaient sur les flancs. En 2 heures, la petite troupe franchit la distance qui séparait la réserve du poste américain. Là, William Doe se procura aisément le tabac, la poudre et l'eau-de-vie qu'il désirait. Il remit le tout aux Indiens, en renouvelant à Winka sa promesse d'un bracelet d'or pour sa femme, et sans se reposer un instant, les Sioux reprirent le chemin de leur village. La nuit commençait à tomber, et Sanders, brisé de fatigue, n'adressa ce soir-là aucune question au détective. Mais le lendemain matin, lorsque celui-ci vint l'avertir qu'il fallait se remettre en route, le fabricant de biscuits crut pouvoir lui demander quelques explications. « Mon cher monsieur, lui répondit le mystérieux personnage, nous causerons de tout cela à Sioux City, où nous nous séparerons. En attendant, croyez-en ma parole. Nous n'avons pas fait une excursion inutile à travers la prairie. J'en ai bien rapporté, comme je l'espérais, un bout de la corde à laquelle sera suspendu James Gobson. » Sans insister davantage, car il savait que c'eût été inutile, Willie Sanders remonta à cheval et les 4 voyageurs quittèrent le fort Dakota. 48 heures plus tard, ils étaient rentrés à Sioux City. « Ici, » dit le lendemain William Doe à ses compagnons après le déjeuner, « nous allons nous séparer. Nous avons terminé tout ce que nous avions à faire ensemble. Vous êtes libres. » Puis il ajouta, en s'adressant au trappeur, « Quant à vous, Butler, votre concours m'a été précieux. Voici les $100 que j'avais promis de vous donner au retour de notre petite expédition. Et voici de plus $100 de gratification, car j'ai réellement rapporté chez les Indiens tout ce que j'y allais chercher. Monsieur Sanders n'oubliera pas de vous faire parvenir prochainement à l'hôtel de l'Union à Jefferson le bracelet destiné à la femme de Winka. » L'examen de Misada confirma la promesse du détective, et le trappeur, qui avait glissé dans sa ceinture les $200, serra les mains aux 3 amis et les laissa seuls. « Alors, demanda Sanders à William, vous ne rentrez pas avec nous à New York ?»«
Non, répondit celui-ci. Je me dirige du côté opposé. Je vais à San Francisco. »«
À San Francisco ?»
Oui, c'est là que je compte trouver le restant de la corde que je destine à James Gobson. Vous aurez bientôt de mes nouvelles, dans 1 mois ou plus tard. Mais promettez-moi à ma première dépêche de venir me rejoindre.
Si ça n'est pas trop loin.
Vous n'en aurez que pour quelques heures de chemin de fer. Maintenant, avant de nous séparer, résumons-nous.
J'avoue que je ne demande pas mieux. Il serait temps que je comprisse un peu. Je suis sûr que le capitaine est de mon avis.
Young, qui, renversé sur sa chaise et les pieds sur la table, fumait son cigare, opina de la tête. Et Doe poursuivit. « Nous avons acquis à Jefferson
la certitude que James Gobson s'y trouvait quelques jours avant l'enlèvement de Miss Ada. Et chez les Sioux, celle que c'est bien lui qui a exécuté cet enlèvement.
« Oui, c'est incontestable, » dit Sanders. « Cela prouve que, si cet homme est un misérable, son ancienne femme ne vaut pas mieux que lui, puisque, après avoir été livrée à un amant par son mari, non seulement elle a sauvé ce gredin de la potence, mais encore elle lui a pardonné. »
« Mieux que cela, cher monsieur, elle est redevenue sa femme légitime. »«
Sa femme légitime ? Gobson a épousé Ada ?»«
En seconde noce, puisqu'ils avaient divorcé. Vous n'ignorez pas que les lois américaines autorisent ces mariages, tandis que dans tous les autres pays où le divorce existe, la seule femme qu'on ne puisse pas épouser est précisément celle dont on a été séparé judiciairement. »«
Les misérables !»
Le pauvre Willie Sanders n'en put dire davantage. Toujours amoureux, il avait conservé l'espoir de retrouver Miss Ada. Et voilà qu'une nouvelle barrière s'élevait maintenant entre elle et lui.
« Mais alors, mon cher Doe, observa Young en prenant à son tour la parole, à quoi diable vous serviront ces constatations que nous venons de faire ?»«
Oui, à quoi ?» murmura Sanders.
« Ce Gobson, reprit le capitaine, a enlevé une femme. Qu'elle ait été ou n'ait pas été la sienne, peu importe. Il l'a vendue à un amoureux. » Puis cette femme, lui pardonnant et les mauvais traitements qu'elle en a reçus jadis, et cette dernière conduite, qui n'est pas précisément celle d'un galant homme, cette femme, lui pardonnant tout cela, a accepté une seconde fois son nom. C'est odieux, ignoble. Mais la justice n'a rien à y voir. Il n'y a là ni crime ni délit. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que lors même qu'il y aurait là crime ou délit, ce James Gobson ne pourrait plus être inquiété, puisque la cour a révisé son procès et l'a acquitté.
Il y avait des semaines, peut-être des mois, que le capitaine ne s'était permis un discours d'une telle longueur, et qu'il n'avait raisonné avec autant de logique. Il était émerveillé lui-même et attendait d'un air vainqueur la réponse de son ami Doe.
« Mon cher Young, dit ce dernier, vous parlez d'or. James Gobson a été acquitté par le jury, c'est vrai, mais il n'a pas été acquitté par William Doe. Et William Doe vous réserve ainsi qu'à lui une surprise. Ne m'en demandez pas davantage, ni l'un ni l'autre. Retournez à New York et tenez-vous prêts à me rejoindre lorsque je vous ferai signe. »
Le capitaine et Sanders connaissaient trop bien leur ami pour lui adresser d'autres questions. Et c'est après ce dernier entretien que les trois voyageurs se séparèrent. Quelques heures plus tard, Young et le fabricant de biscuits prenaient à Sioux City la voie ferrée qui allait les reconduire à New York en passant par le nord. Et le détective, au contraire, refaisait la route qu'il avait déjà parcourue, descendant au sud. Le lendemain, au moment où Sanders, enchanté de retrouver toutes ses aises, faisait servir pour le capitaine et lui un excellent dîner dans la luxueuse salle à manger de l'hôtel Sherman, à Chicago, William Doe montait à Omaha dans le train qu'il ne devait quitter qu'à Benton, dans le territoire du Wyoming. Benton était à cette époque la dernière station de l'Erie Railway. C'était le terminus, comme disaient les Américains. Ceux qui voulaient aller au-delà, dans l'ouest, n'avaient d'autre moyen de locomotion que le stage, horrible et massif véhicule qui ne pouvait contenir plus de 7 ou 8 voyageurs et n'arrivait à destination qu'après avoir traversé 1000 obstacles et couru tous les périls. Non seulement les chemins étaient mauvais, les auberges détestables et les compagnons de route dangereux, mais de plus, on avait souvent à repousser les attaques des Indiens. Tout cela, sans doute, inquiétait peu William Doe, dont l'âme était de bronze et qui allait droit à son but, car il monta dans la diligence du désert avec autant de calme que s'il eût pris place dans un de ces splendides wagons-salons que possèdent tous les chemins de fer américains. 10 jours après son départ de Benton, alors que Young et Sanders peut-être ne pensaient déjà plus à lui, il arrivait à San Francisco.